Chers amis, bonjour à chacun, chacune. Avec mon épouse, nous sommes heureux de nous retrouver au milieu de vous ce matin, de pouvoir partager ces moments autour de la personne de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, il y a maintenant quelques 13 ans que nous sommes partis d'Annecy et nous nous sommes installés sur Clermont-Ferrand, où nous servons le Seigneur maintenant depuis 13 ans dans cette ville, une ville étendue, une vaste région, avec beaucoup d'objectifs à atteindre, et puis de nombreuses âmes à gagner, à sauver pour la gloire de notre Dieu. Les enfants n'ont pas pu se joindre à nous. L'aîné, 26 ans maintenant, s'est mariée au mois de juin et donc elle poursuit ses études à côté. Donc la deuxième, 22 ans, qui aussi poursuit ses études et Dieu voulant, elle devrait passer donc son CAPES là cette année et rentrer dans l'enseignement. En tout cas, elles nous ont dit de bien saluer les uns et les autres. Et cela fait plaisir de revoir tant de visages que nous avons connus, pour certains petits qui ont grandi, et puis d'autres qui n'ont pas changé, qui sont toujours les mêmes. Alors, quelques-uns m'ont dit, vous non plus, vous n'avez pas changé. Peut-être quelques kilos en plus, quelques cheveux blancs en plus, et surtout la bénédiction de Dieu qui nous accompagne chaque jour. Merci à votre frère et à son époux, à votre pasteur, pardon, et à son épouse pour l'invitation pour ce week-end. En tout cas, eh bien, nous nous réjouissons d'être avec vous. J'aimerais partager quelques versets dans tirés de l'Écriture. Excusez-moi, je suis un peu pris au niveau des bronches, mais ça devrait aller. Exode au chapitre 29, si vous avez la Bible. Exode au chapitre 29, et nous lisons à partir de verset 4. L'équipe pastorale qui travaille à nos côtés aussi vous salue bien dans le nom du Seigneur. Exode au chapitre 29, le verset 4, il est dit ceci. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Retenez ce verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, et tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc à Aaron et ses fils. Amen. Le verset 19, un peu plus bas. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron, sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés à Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Et puis, au chapitre 30, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, et nous lisons au verset 22. Il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition du parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, « Ce sera pour moi » l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Voilà, nous arrêtons là cette lecture ce matin. Et vous l'avez certainement compris, il s'agira pour nous, au travers de ces quelques lectures, de nous entretenir ensemble de la composition de l'huile sainte, appelée aussi l'huile de l'onction, selon les directives que Dieu a pu donner en son temps à Moïse, son serviteur. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais vous l'avez lu avec moi. Dieu va donner des directions bien précises à Moïse. Il va lui donner, nous le verrons dans quelques instants, des proportions bien précises. Et en particulier, dans le chapitre 30, la Bible utilise une expression, puisqu'il est dit « Tu feras l'huile de l'onction » selon l'art du parfumeur. Et voyez-vous, tout d'abord, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de quelqu'un, j'aimerais dire tout de suite, cette huile d'onction dont il est question ici n'a rien à voir avec l'onction d'huile, vous l'avez compris, dont nous parle l'apôtre Jacques dans sa lettre. L'onction d'huile est destinée à la guérison du corps, est destiné à oindre le croyant qui, dans un moment d'épreuve, n'arrivant pas à sortir la tête de l'eau tout seul, fait appel aux anciens de l'Église. Et les anciens, ou le pasteur, vont l'oindre d'huile, vont prier pour lui, et la Bible nous dit que la prière de la foi sauvera le malade. Mais ici, il est question d'une huile différente, l'huile de l'onction. Et cette huile d'onction était destinée à la consécration de toutes les choses saintes dans le sanctuaire, les ustensiles sacrés. Cette huile d'onction était destinée aussi à la consécration d'Aaron, le souverain sacrificateur. La Bible nous dit qu'on devait en prendre on devait répandre sur sa tête, nous le verrons aussi, eh bien, dans quelques instants. Et voilà que cette huile descendait sur sa tête, sur sa barbe. C'était tous ses vêtements qui en étaient imprégnés. Et la Bible nous dit, cet homme recevait l'onction sacerdotale. Et cette huile d'onction est par conséquent, vous l'avez compris, une image de l'onction du Saint-Esprit. L'onction de l'Esprit dont vous et moi, nous avons pleinement besoin. L'onction dont nous avons besoin, non seulement peut-être dans les moments de détresse, dans les moments difficiles, mais l'onction dont nous avons besoin dans tous les aspects de la vie chrétienne, du service, de la vie de l'Église, et aussi, voyez-vous, dans la perspective de la conquête des âmes. Et c'est Jésus qui lui-même, dans les évangiles, va eh bien, nous parler de l'importance de l'onction. Si vous connaissez la Bible, nous sommes dans l'évangile selon Luc. Jésus est en train d'introduire son ministère public. Il est à Nazareth et la Bible nous dit, ayant déroulé le rouleau du livre du prophète Ésaïe, il se met à lire quelques versets qui le concernent et Jésus va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et Jésus va parler de guérison, de délivrance, eh bien, de secours pour tous les malheureux. Et plus tard, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre, résumant le ministère de Jésus, il va dire dans les Actes des Apôtres, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Et c'est ainsi, dans un premier temps, l'Écriture fait un rapprochement entre l'onction de l'Esprit et les miracles qui ont accompagné le ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Puis pour les lecteurs de la Bible, nous le savons, dans un fameux psaume, le psaume 133, un homme de Dieu va dire ceci, « À qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. » Et puis il est dit un peu plus bas, « C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. » Cet adverbe de lieu, là, désigne, voyez-vous, un terrain sur lequel, lorsque nous nous tenons, eh bien, Dieu envoie sa bénédiction. Alors, l'onction est en rapport avec les miracles dans la vie de Jésus, mais le psaume 133 nous montre comment l'onction est en rapport avec la bénédiction de Dieu. Et ce matin, bien-aimé, parce que l'onction est indispensable, parce que la bénédiction est indispensable. Voilà pourquoi, lorsque nous lisons l'Écriture, eh bien, force est de constater que à aucun moment, eh bien, l'Écriture, la parole de Dieu, ne conçoit, voyez-vous, peut-être une église sans l'onction de l'Esprit. Qu'est-ce qu'une église sans l'onction de l'Esprit? Un rassemblement peut-être religieux. Des hommes et des femmes qui se rassemblent pour parler de doctrine, de connaissance, des choses qui touchent la personne de Dieu. Et quand je lis l'Écriture, force est de constater à aucun moment, eh bien, l'Écriture ne conçoit non plus un ministère sans l'onction de l'Esprit. Car au fond, qu'est-ce qu'un ministère sans l'onction de l'Esprit? Quelqu'un qui est capable, peut-être, d'être un bon orateur, de parler magnifiquement des choses de Dieu, Bien-aimé, ce qui change tout, c'est l'onction. Et ce matin, nous avons besoin de l'onction de l'Esprit. Dans la vie de Jésus, l'onction était indispensable. Dans la vie de l'Église, l'onction est indispensable. Pour ma part, dans mon service, eh bien, je prie afin que l'onction accompagne, eh bien, mon service, mon ministère, parce que le service sans l'onction, elle, il n'est pas grand-chose, et il nous faut l'onction de l'Esprit de Dieu. Et je dirais ce matin, mais qu'est-ce qu'une réunion sans l'onction de l'Esprit? Et parce que l'onction, donc, est indispensable, voilà pourquoi nous voulons faire nôtre cette prière. Et nous voulons dire, Seigneur, ce matin, je veux chacun pour ma part. Ce n'est pas l'affaire, peut-être, du responsable spirituel. Ce n'est pas la responsabilité uniquement de quelques élites au milieu du peuple de Dieu. Mais c'est l'affaire de l'ensemble du peuple de Dieu. Nous voulons dire, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit remplie de ton onction. Je veux que chaque jour, eh bien, je vis dans cette plénitude de la bénédiction d'en haut. Vous savez, c'est Paul qui donne cette exhortation dans sa lettre aux Éphésiens. Il dira, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. » Et ce matin, c'est là l'objectif que nous voulons nous fixer chacun pour notre part. On est encore au début d'une année nouvelle et souvent au début d'une année, on prend des résolutions, on se fixe des objectifs. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, encore plus de toi, encore plus de ta présence, encore plus de ton onction. Pourquoi? Non pas pour une satisfaction personnelle, mais afin que dans ma vie de tous les jours, je fasse la différence, je sois un flambeau, je sois une lumière et je sois un instrument efficace entre tes mains. En tout cas, nous l'avons dit, eh bien, cette huile était destinée à la consécration des choses saintes, des ustensiles sacrés, et cette huile était destinée à la consécration du souverain sacrificateur. Et dans ces versets que nous avons lus, la Bible nous montre qu'il y avait toute une cérémonie qui était célébrée lors de la consécration du souverain sacrificateur. On le faisait venir devant la personne de Dieu, dans la présence de Dieu. Et puis, on lui demandait à Aaron ou ses fils de poser leurs mains sur la tête d'un bélier. On offrait le bélier en sacrifice. Il y avait, eh bien, comme une forme de transposition. Cet homme qui se destinait à servir Dieu, cela nous a été rappelé à plusieurs reprises ce matin. La nécessité de la sanctification, la nécessité d'une vie pure. S'il y a une chose avec laquelle Dieu ne pourra jamais composer, c'est un cœur impur. Et cet homme qui s'apprêtait, eh bien, à exercer un sacerdoce dans le sanctuaire, dans la présence du Dieu vivant et vrai, c'était un besoin impérieux. Il fallait tout d'abord, sa consécration commence par la purification de ses péchés. Alors, par cette forme de, transposition, il posait sa main sur la tête du bélier, son péché était reporté sur cette victime innocente, on l'immolait, et la Bible nous dit on prenait le sang. On l'appliquait tout d'abord sur le lobe de l'oreille droite. Et cet homme qui était là dans la présence de Dieu, dont on est en train de sanctifier l'oreille, c'était, voyez-vous, l'image de celui qui maintenant, en entrant là dans le service de Dieu, voulait en quelque sorte faire sienne cette prière que l'homme de Dieu va plus tard adresser à Dieu, qu'il va, eh bien, faire monter vers le Seigneur chaque matin. Tu éveilles mon oreille afin que j'apprenne à t'écouter comme écoutent les disciples. Il fallait que son attention, eh bien, soit éveillée, qu'il y ait une sensibilité, eh bien, à la voix de Dieu, à la direction de l'Esprit, à la conduite de l'Esprit. Il fallait sanctifier son oreille. Et puis, on appliquait le sang sur l'orteil de la main droite, le sang sur l'orteil du pied droit. La main nous parle de nos actions. Il fallait que maintenant, eh bien, toutes les actions de cet homme soient sanctifiées. Sa démarche devait être sanctifiée. Il ne fallait plus qu'il ait une démarche boiteuse, mais il fallait que ses pas soient affermis dans les voies de Dieu. Et après cette cérémonie de sanctification, la Bible nous dit on prenait cette huile d'onction et on la versait sur la tête de celui qui était consacré. J'attire votre attention sur le fait que cette huile, on ne l'a pas versée n'importe où. On ne l'a versée ni sur les mains, ni sur l'oreille, ni sur le pied, ni sur le corps. Mais la Bible nous dit un endroit bien précis. Cette huile, on la verse sur sa tête. Parce que vous savez que la tête nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et la partie finalement supérieure de l'homme, c'est toujours son esprit. Est-ce qu'il fallait régénérer chez cet homme qui allait entrer maintenant, eh bien, de plein pied dans le service de Dieu? C'était l'esprit de son intelligence. Alors on versait de l'huile sur sa tête. Parce que vous savez, comme moi, nous sommes faits d'un corps. Et lorsque le péché est entré dans le monde, ce n'est pas mon corps, eh bien, qui est mort. Bien sûr, il y a eu la conséquence sur, eh bien, mon corps, le physique. Le physique a été entraîné dans un processus de dégénération. Mais ce n'est pas le corps qui a été mort par le péché. Ce n'est même pas, voyez-vous, peut-être cette partie de moi-même qui fait que je suis sensible à la beauté des choses. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui sont sensibles à la beauté de la nature. Ils savent écouter de la belle musique, ils savent apprécier, eh bien, de belles choses. Il y a une certaine sensibilité. Ce n'est pas ça que le péché est venu faire mourir chez nous. Ce que le péché est venu faire mourir, c'est notre esprit. Cette partie de l'homme dans laquelle Dieu se révèle. Et à partir du moment où le péché est entré dans le monde, l'intelligence de l'homme a été comme obscurcie. Eh bien, les ténèbres se sont amassées sur cette partie, voyez-vous, de son être, son esprit. Les choses spirituelles lui sont devenues totalement étrangères. Et il a fallu que Jésus vienne. Et au travers de l'œuvre, eh bien, de la croix, de l'œuvre de la régénération, eh bien, lorsque l'on s'est converti, voyez-vous, Dieu est venu intervenir au niveau de cette partie supérieure de l'homme. Il nous a touchés dans notre esprit, il nous a touchés, eh bien, dans notre intelligence spirituelle. Et voilà que notre intelligence qui était comme obscurcie s'est éclairée. Eh bien, on s'est mis à comprendre les choses de Dieu. On s'est mis à comprendre la personne de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Et pourquoi je dis il fallait que l'on verse de l'huile sur la tête du sacrificateur? Je l'ai précisé parce que l'huile nous parle, l'huile qui est versée sur la tête, nous parle du renouvellement de l'intelligence. Et en tant que chrétien, j'ai besoin, après avoir été régénéré dans mon esprit, pour que je comprenne les choses de Dieu. La Bible nous dit que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Il n'y a que celui qui a été régénéré dans son esprit qui peut comprendre les choses spirituelles. Et j'ai besoin de ce renouvellement constamment, j'ai besoin de l'onction de l'Esprit, j'ai besoin de vivre sous l'onction de l'Esprit, afin que l'onction continue ce travail en moi, un renouvellement de mon intelligence. Pourquoi? Parce que vous savez, et vous l'avez certainement remarqué, aujourd'hui, bien-aimés, dans beaucoup de milieux, même dits évangéliques, on parle des choses de Dieu, mais avec un langage, je dirais, malheureusement, quelquefois, très terre-à-terre. Et aujourd'hui, les choses spirituelles, on n'en parle plus avec un langage spirituel. Et je me rends compte que dans beaucoup de milieux dits évangéliques, voyez, on ne parle plus de péché. On ne parle plus de nouvelle naissance. On ne parle plus de besoin de se repentir, de venir au pied de la croix et puis de se réconcilier avec Dieu. On ne parle plus de la nécessité de marche en nouveauté de vie. On parle de puissance. On parle, eh bien, de Dieu. On parle, eh bien, de toutes sortes de choses qui touchent à la personne de Dieu. Et il y a quelque chose, finalement, que l'on est en train de perdre. Et c'est pour cela que je dis, l'onction est indispensable. Parce que sans l'onction, il n'y a pas le renouvellement de l'intelligence. Et j'ai relevé un texte dans la lettre de Paul aux Corinthiens, je vais vous le lire. Dans 1 Corinthiens au chapitre 2 et le verset 12, il est dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Écoutez bien. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et le peuple de Dieu a besoin, voyez-vous, de parler le langage du ciel. Le peuple de Dieu a besoin de parler le langage spirituel. Et dans ce monde où aujourd'hui on parle peut-être d'amélioration, peut-être de devenir un peu plus sociable, on parle d'humanisme. Le peuple de Dieu a besoin d'être un peuple différent. Et le peuple de Dieu a besoin d'être un peuple qui vit sous l'onction de l'Esprit. Et vivant sous l'onction de l'Esprit, alors nous vivrons ce que Paul écrivait dans sa lettre aux Romains lorsqu'il disait « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vous savez, souvent on a pensé être mondain, c'est peut-être, je ne sais pas moi, s'habiller de telle manière, avoir peut-être tel type de coloris, tel type de tenue vestimentaire. J'y suis profondément attaché. Et mon épouse vous le dira. Eh bien, quand il y a peut-être de l'extravagance ou du laisser-aller, je me fais un devoir de dire en tant que chrétien, même la tenue c'est un témoignage, mais le monde ce n'est pas dans la tenue, le monde voyez-vous c'est ce qu'il y a dedans, et j'ai besoin pour que je ne pense pas comme le monde, pour que je ne parle pas comme le monde, mais que j'ai un langage spirituel, mon intelligence soit renouvelée par la parole et par mon contact avec Dieu. J'ai besoin que l'huile soit constamment versée sur ma tête. Alors ce matin, Seigneur, c'est vrai, encore plus de ton esprit, encore plus de ta présence. Et lorsque nous nous assemblons, Seigneur, ne fais pas que passer au milieu de nous. Viens, Seigneur, pose-toi, arrête-toi sur notre vie. Viens nous émonder, viens nous transformer, viens nous renouveler. Et chaque fois que nous sortons de ta présence, eh bien, nous soyons un peu plus à ton image, parlant ton langage, vivant ta vie et étant un petit peu plus conforme, eh bien, à ce que l'Écriture nous révèle de ta personne. Ce que je remarque ici dans ce texte de Exode au chapitre 30, la Bible dit que Dieu va parler à Moïse en lui disant « Prends des meilleurs aromates » et puis il y a des poids, il y a des mesures. Moi, ce que j'aime dans la Bible, et chaque fois que j'ouvre l'Écriture, j'aime m'arrêter sur les détails, les précisions, parce que, vous savez, il n'y a rien qui a été écrit en vain dans l'Écriture. Et si Dieu a pris le soin de donner à Moïse des proportions, tu prendras, dira-t-il, eh bien, 500 cycles de myrrhe. Le temps nous manque pour développer ces choses, mais il est précisé de celles qui coulent d'elles-mêmes. Il est dit la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. Tout cela, c'est plein de signification, mais je le répète, le temps nous manquerait ce matin. 200 cycles de roseau aromatique, il y a des proportions. Au fond, le Seigneur aurait pu dire à Moïse, écoute, tu es un homme de Dieu, tu es un homme régénéré, tu as l'esprit sur toi, tu as l'intelligence des choses spirituelles. Je te fais confiance, Moïse. Tu vas faire les choses un petit peu comme cela, au feeling. Selon peut-être ta sensibilité, tes sensibilités, selon l'appréciation que tu as des choses. Pas du tout. Ce que j'aime avec le Dieu de la Bible, Dieu ne laisse rien à l'appréciation de qui que ce soit. Ni sur, eh bien, la façon de vivre sa vie chrétienne, ni sur la façon de célébrer un culte et de vivre un culte, ni sur la façon, eh bien, de traduire mon témoignage dans l'Église, en dehors de l'Église. Dieu ne laisse rien à l'appréciation de qui que ce soit. Écoutez bien, quand bien même ma conscience a été régénérée. Parce que si j'ai bien compris la Bible, c'est quand même le peuple d'Israël, c'est quand même le peuple de l'Alliance, au sujet duquel il nous est dit un jour, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et parce que ce qui leur était bon n'était pas bon aux yeux de Dieu, il va falloir que Dieu rectifie la mise. Voyez-vous, ma conscience a beau être éclairée, mais ma conscience reste quand même une conscience humaine. Je dirais, j'ai beau être quelqu'un de spirituel, mais je dois composer avec l'aspect naturel des choses. Alors Dieu ne laisse rien à l'appréciation personnelle de Moïse. Dieu donne des mesures, Dieu donne des proportions. Et ce que je dirais, si vous prenez le temps, vous allez à la fin de votre Bible, la plupart des Bibles ont cela aujourd'hui, vous comparez ces mesures avec les mesures d'aujourd'hui, vous allez voir que ces proportions représentent à peu près 20 kilos d'huile parfumée. C'est pas rien. 20 kilos d'huile parfumée. On n'en préparait pas, eh bien, pour quelques grammes, pour une utilisation ponctuelle, mais quand on préparait l'huile de l'onction, on la préparait avec abondance. Et voyez-vous, c'était un produit de qualité, la Bible nous dit. C'était un produit exceptionnel. Et non seulement c'était un produit de qualité, un produit exceptionnel sur le plan aromatique, mais qui dit exceptionnel, qui dit qualité, dit aussi c'était un produit qui revenait cher. Cher parce que beaucoup de ces ingrédients ne se trouvaient pas dans, eh bien, la végétation proche, proche dans le pays de Canaan. Il y a certains produits qu'il fallait importer. Et tout cela, donc, revenait très cher. L'abondance, la quantité, les produits que l'on importait, qui venaient de loin. Tout cela faisait que cette huile, quand on la préparait, cela avait un coût. Qu'est-ce que cela veut dire? La cherté, voyez-vous, de cette huile de l'onction, ce matin, nous parle de la valeur de l'onction de l'Esprit. La valeur de l'onction, non pas sur le plan de la doctrine. La valeur de l'onction, non pas, eh bien, sur le plan, voyez-vous, de ce que l'Écriture enseigne concernant l'onction de l'Esprit, mais la cherté de ce produit, nous parle ce matin de la valeur de l'onction, parce que je ne sais pas comment vous êtes, mais chaque fois que je m'assois dans la présence de Dieu, je me mets à lire l'Écriture, et puis je prends un moment avec le Seigneur, je prie, et puis l'Esprit me visite, l'onction descend sur ma vie, je me mets à raconter les merveilles de Dieu. Eh bien, chaque fois, je suis non seulement bouleversé, mais je suis humilié. Vous savez pourquoi je suis humilié? Et je me dis, mais Seigneur, mais comment un Dieu si grand que toi ait pu venir faire sa demeure dans un être aussi insignifiant que moi? Comment, Seigneur, un Dieu si saint a pu venir faire sa demeure dans un être aussi, eh bien, misérable que je suis? Tu as fait de moi le temple de ton esprit. Et vous savez, ça, ce n'est pas une banalité, cette affaire. Ce n'est pas une banalité. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a régénéré, Dieu, eh bien, est venu habiter mon cœur, il a fait sa demeure en moi, il a fait de moi un temple de prière, un temple de louange, un temple d'adoration. Ce n'est pas quelque chose que l'on doit banaliser, parce que pour que Dieu puisse venir habiter mon cœur, il en a coûté au Seigneur. Il en a coûté au Seigneur. Il a fallu qu'un jour une croix soit dressée. Parce que la Bible me dit, lorsque le péché est entré dans le monde, il y a eu comme un mur, il y a eu comme une séparation qui a été dressée entre la créature et son créateur. Et pour que j'ai accès à nouveau à la présence de Dieu, et pour que la présence de Dieu ait accès à mon cœur, il a fallu que ce mur soit renversé. Et pour que ce mur soit renversé, il a fallu qu'un innocent meure pour les coupables que nous sommes. Et c'est ainsi que du saint qu'il était, Jésus s'est fait homme, s'est fait serviteur, et il s'est fait péché. La Bible nous dit, il a pris sur lui l'iniquité de nous tous. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et chaque fois, voyez-vous, que je suis visité par Dieu, chaque fois que je pense à cette réalité, je suis devenu le temple de l'Esprit. Je suis bouleversé, je suis humilié, parce que je me dis, mais Seigneur, il t'en a coûté ta vie. La croix, voyez-vous, c'est un drame, bien-aimé, parce qu'il a fallu ça pour que mon cœur de pierre se laisse interpeller, se laisse gagner par l'amour de Dieu. Il a fallu le drame de la croix pour qu'enfin je me sente interpellé et j'entre dans cette expérience de réconciliation avec Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que d'être habité par l'Esprit de Dieu. Mais je dirais, vous savez, c'est une grâce, c'est un privilège, mais vous le savez comme moi, aucun privilège n'est sans responsabilité. Et parce qu'il en a coûté au Seigneur, pour que je puisse maintenant bénéficier de la présence de l'Esprit dans ma vie, j'ai une grande responsabilité en tant que chrétien, de veiller afin de ne jamais perdre le bénéfice de l'onction de l'Esprit. Et je reviens à ce que je disais, d'où l'importance d'être constamment renouvelé dans l'esprit de son intelligence, parce qu'il n'y a que l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille qui sera constamment renouvelé dans l'esprit de son intelligence, qui comprendra et qui saura apprécier la valeur de l'onction, eh bien, à sa juste mesure. Vous connaissez l'histoire de ces deux hommes dans la Bible. Saül, David, deux hommes qui ont reçu chacun de leur côté l'onction royale. Saül, il a reçu l'onction, mais pour lui, eh bien, c'est une affaire qu'il a banalisée, tellement banalisée. Eh bien, Saül se permet, voyez-vous, certaines largesses dans ses agissements, dans ses comportements. Il se permet même de désobéir et de redésobéir et encore de désobéir à nouveau. Et lorsque le prophète vient pour lui dire, Dieu t'a rejeté et t'a enlevé l'onction qu'il t'avait donnée, ce qui préoccupe Saül, c'est quoi? Il retient, eh bien, le prophète par son manteau. Et il lui dit, mais écoute, viens, prie avec moi en présence des anciens. Honore-moi en présence des anciens. Ce qui le préoccupait, ce n'était pas que Dieu avait retiré son esprit, il était redevenu un homme naturel. Eh bien, sans la présence de Dieu, ce n'était pas cela qui le préoccupait. Mais c'était son honneur. C'était de sauver la face. David, il a reçu tout autant l'onction royale, avec peut-être cette petite différence. Lui, eh bien, la Bible ne nous dit pas, comme pour Saül, que le prophète a pris une fiole et puis a rempli d'huile, qu'il a versé sur la tête, eh bien, de Saül. Mais pour David, il nous est dit, il a pris une corne. Et pour qu'il y ait une corne, il y a eu un sacrifice. Pour qu'il y ait une corne, il y a une victime, il y a une mise à mort. Et ça, David ne l'a jamais perdu de vue. À tel point, lui aussi, à un moment donné, il dérape. Parce que le plus grand, voyez-vous, peut trébucher et faire un faux pas. Mais la différence entre David et Saül, c'est que lorsque, eh bien, on vient dire à David qu'il a péché, immédiatement, David se répand dans la présence de Dieu. Lave-moi, purifie mon cœur. Et puis il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que Seigneur, que serais-je sans ton onction? Mais que serais-je sans la présence de ton Esprit? Qu'adviendra-t-il de moi, Seigneur? Quelle perspective, quel avenir? Pour un homme, pour une femme, sans l'Esprit de Dieu. Ce produit était un produit qui avait de la valeur. Et ce matin, nous voulons apprécier la bénédiction de l'Esprit sur notre vie à sa juste valeur. Et nous voulons dire, Seigneur, que rien ni personne ne vienne me séparer de toi. Que rien ni personne ne vienne m'enlever cette grâce, cette bénédiction, mais que ton huile soit toujours présente sur ma vie. Et si quelquefois, peut-être, Seigneur, il faudrait que je passe par un chemin difficile, peut-être par un chemin d'humiliation, peu importe. L'essentiel, c'est que je ne perde jamais ta présence. Et puis, rapidement, puisque le temps passe, je dirais que j'ai parlé des mesures, j'ai parlé des poids, j'ai parlé de l'exactitude dans ses précisions. Dieu n'a pas laissé à l'appréciation de Moïse, eh bien, le fait de composer cette huile en fonction de ses sensibilités. J'aime cette expression à deux reprises dans le chapitre 30. Tu feras cette huile selon l'art du parfumeur. Et pour faire cette huile selon l'art du parfumeur, il fallait respecter à la lettre les proportions. Il fallait respecter à la lettre les proportions. Et vous savez, quelque part, je me dis que si Dieu a pris le soin de préciser ces choses, c'est parce que les proportions, quand on parle de la vie de l'Esprit et quand on parle de l'onction, c'est quand même quelque chose aussi de très important. Parce que les proportions, si je ne les respectais pas, si Moïse ne les respectait pas, il allait y avoir un déséquilibre dans le parfum. C'est vrai, c'est pas vrai? Imaginez, mesdames, je ne sais pas moi, vous parfumez à Dior, Coco Chanel ou je ne sais pas trop. Imaginez qu'un jour, le parfumeur se soit trompé dans les proportions. Vous aurez payé Coco Chanel. Vous aurez le sentiment de vous parfumer au Coco Chanel. Mais ce ne sera pas du Coco Chanel. Mais ce sera un produit, eh bien, falsifié. Et dans le domaine de l'onction, quand on parle de l'onction, quand on parle de la vie de l'Esprit, eh bien, il faut tenir compte des proportions. Je le répète, parce que les proportions parlent de l'équilibre. Et en matière de vie de l'Esprit, l'équilibre est indispensable. Eh oui. Qu'est-ce qui fait que quelquefois le discrédit a été jeté sur le pentecôtisme? Et qu'est-ce qui fait que quelquefois le peuple de Pentecôte a été montré du doigt? Qu'est-ce qui fait que quelquefois on a dit du peuple de Pentecôte, vous êtes des extravagants? Et qu'est-ce qui fait que quelquefois nous avons basculé dans les exagérations? Parce que nous n'avons pas pris garde aux proportions. Et nous n'avons pas fait attention à l'équilibre. Et vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu est un Dieu équilibré. Sa parole est une parole équilibrée. Et si, voyez-vous, je fais de sa parole, finalement, eh bien, mon boussole, ma carte de recette, et je l'applique à la lettre à ma vie, alors l'équilibre ne me manquera jamais. Et quand on parle de l'onction, il ne faut pas confondre l'onction avec l'émotion. Et c'est vrai que souvent dans l'onction, eh bien l'émotion entre en jeu. Et quand on est visité, quelquefois on se surprend en train de pleurer. D'autres, peut-être, on est rempli de joie. L'émotion rentre en jeu. Mais l'onction, ce n'est jamais de l'émotion. Parce que l'émotion, après l'atmosphère, après un cadre, après un certain environnement, l'émotion disparaît. Mais l'onction, elle est éternelle. Alléluia. Et juste, j'aimerais laisser quelque chose sur votre cœur. Avant que nous concluions ces quelques pensées. Il y a un texte qui m'a toujours interpellé quand je lis la vie d'Abraham. Un jour, la Bible nous dit que Dieu appelle Abraham et lui dit, « Va sur ce lieu que je te montre et là, offre-moi ton fils. » Dieu est en train de dire à Abraham, « Offre-moi. » Abraham rentre dans une expérience où il a le sentiment qu'il va être dépouillé. Mais que dit Abraham? Il dit à son fils, allons à ce lieu, allons adorer. Et alors qu'ils sont en train de cheminer ensemble, à un moment donné, le père laisse les serviteurs, etc. Et puis, il prend le bois, il prend le couteau, il prend le feu, et puis il prend le fils avec lui. Et là, le fils l'interpelle. Père, me voici, mon fils. Et là, il pose une question que nous devons toujours nous poser lorsqu'il s'agit de la manifestation de l'onction et de la manifestation de l'Esprit. Ce fils va dire à son père, « Père, il y a le bois. » C'est « Père, il y a le feu, l'image de l'Esprit. Il y a le couteau, eh bien l'image de la parole. » Il dit, « Mais père, mais où est l'agneau? Où est l'agneau? » Et l'équilibre dans la manifestation de l'Esprit se trouve là. C'est que chaque fois qu'il y a une manifestation de l'Esprit, l'Esprit nous amène au pied de l'agneau. Alléluia. Il nous amène dans une expérience avec l'agneau. Il nous amène, eh bien, au pied de la croix. Parce que toute expérience spirituelle et qui est en rapport avec l'onction part de la croix. Et toute expérience qui est en rapport avec l'onction me ramène à la croix. Enlever la croix et il ne reste plus rien du pentecôtisme et de l'expérience de la Pentecôte. Et cet équilibre, j'ai besoin de le trouver. Et pour que je le trouve, alors j'ai besoin de nourrir une certaine intimité avec Dieu, une proximité avec Dieu. J'ai besoin de prendre garde aux proportions. L'équilibre, vous savez, ça se joue à quelques millièmes de millimètres. Quelques millièmes de millimètres. On a fait vite fait de basculer d'un côté ou d'un autre. Et pour qu'on trouve le point d'équilibre, eh bien, il faut une certaine justesse. Et la justesse, c'est Dieu qui la porte à ma vie. C'est sa parole. C'est ma relation avec lui. C'est ma communion avec lui. Alors que Dieu vienne bénir sa parole dans notre cœur. Et que ce matin, il nous apporte et il nous accorde sa bonne présence, ton onction, ton Esprit Saint. Quelqu'un n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit ce matin, demande-le à Dieu. Dieu est généreux. Dieu est bon. Quelqu'un l'avait expérimenté, mais il y a un moment de sécheresse. On va prier et Dieu est capable de te renouveler ce matin. Il est capable de te renouveler. On se recueille. On va prier le Seigneur.